Connaître Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Oui? Ou peut-être? Peut-être oui, peut-être non. On va regarder quelques textes dans le livre du prophète Osée. Osée était un prophète en Israël au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il était contemporain des prophètes Ésaïe et Michée. Il a servi le Seigneur pendant à peu près 30 ans. Le nom Osée signifie « le Seigneur sauve ». Pas mal, « le Seigneur sauve ». Et bien sûr, je ne vais pas me permettre d'oser faire des blagues à deux balles au sujet de son nom. Hein? Et si je fais des blagues, il faut me lapider sur le parking après le culte. Osée dénonce l'état des lieux dans son pays, l'état spirituel. Il fustige l'idolâtrie et la corruption en Israël. Le culte à l'Éternel avait été remplacé par des croyances et des pratiques païennes. La prospérité matérielle du pays avait éloigné le peuple d'un culte à l'Éternel. Osée annonce avec courage, le jugement va venir. Et ce jugement sera un jugement juste et normal. Il explique qu'un peuple qui abandonne le Seigneur sera abandonné par le Seigneur. Logique. Pourtant, Osée parle de l'amour incroyable de Dieu pour la nation, pour le peuple et pour chaque individu. Et en expliquant l'amour de Dieu, Osée déplore l'ingratitude qu'il voit chez le peuple. Le peuple avait tellement reçu, mais ils avaient été ingrats envers le Seigneur. Le prophète Osée est cité plusieurs fois dans le Nouveau Testament par plusieurs auteurs, Matthieu, Pierre, Jude, Paul parmi d'autres. Donc c'est un livre qui est dans l'Ancien Testament, mais qui est cité dans le Nouveau Testament. Et au prophète Ésaïe, nous devons deux expressions françaises que beaucoup de gens citent presque tous les jours. La première expression, le peuple déplace les bornes. Vous savez, on dit le peuple dépasse les bornes et on dit on peut déplacer les bornes, c'est-à-dire ce qui était anormal devient normal. Ce qui était mal devient bien. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous pouvez penser à des exemples. Et l'autre expression, et c'est fort intéressant, parce que cette expression était citée tous les jours depuis une semaine au journal, aux journaux télévisés et à la radio. Semer le vent, moissonner la tempête. Alors, si vous n'avez pas entendu cette citation, eh bien, regardez cette photo. C'est la place de la République au centre-ville de Téhéran. Et les autorités iraniennes ont affiché ce verset en haut à droite en perse. Je peux vous le lire en perse si vous voulez, mais bon, je veux rester humble. Et aussi, je veux devenir humble peut-être, et aussi en anglais. Donc cette citation, une expression courante en perse et en français, « semer le vent, récolter la tempête ». Donc, ce verset est utilisé à des fins, on va dire, politiques. Mais c'est intéressant que dans ce pays-là, ils citent ce verset. Et ceux qui me connaissent un peu savent que je collectionne les expressions que des gens disent. Je pense surtout à des politiques et à des sportifs. Et ces dernières semaines, on a entendu le tohu-bohu, Genèse 1, ces deux mots en hébreu. Vendre son âme pour un plat de lentilles. Se sacrifier sur l'autel de. Séparer le bon grain de l'ivraie. L'arroseur a été arrosé. Un grand journaliste français a écrit son autobiographie et la première phrase dans son livre, l'arroseur a été arrosé, du livre des Proverbes. Et puis il y a celui-là, c'est un véritable Judas. Bon, Je ne vais pas continuer, mais il y a plein de citations qui viennent de la parole de Dieu. Et moi, j'aime bien dire, quand quelqu'un me dit une citation biblique, un dicton en langue française, je dis, ça vient de la Bible. Ou Jésus l'a dit. Et puis les gens me regardent comme si j'arrive de notre planète. Mais c'est une occasion de témoigner. Alors, revenons donc à Osée. Nous allons lire quelques versets dans Osée 4. Donc, je vous invite à trouver Osée. Il fait partie des petits prophètes. Il y a 12 petits prophètes et Osée est un des plus grands des petits prophètes. Ou son livre figure parmi les plus longs. 14 chapitres, comme le livre de Zacharie. Osée 4, verset 1. Écoutez la parole de l'Éternel, Israélite, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Il n'y a pas de vérité, pas de bonté, pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On recourt à la violence, on commet meurtre sur meurtre. Le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Des paroles sévères, des paroles dures, mais des paroles vraies. Dans cette courte lecture biblique, Dieu dresse un état des lieux. Et on peut lire ce texte tout en lisant le journal de demain matin. C'est presque du copier-coller. Dans ce texte, nous voyons plusieurs choses. D'abord, la vérité a disparu. Tout le monde est menteur. Tout le monde ment. Il n'y a plus de vérité en Israël à cette époque-là. Mensonge, tricherie, tromperie partout. La miséricorde, la bonté, la gentillesse ont disparu. Tout le monde déteste tout le monde. Méchanceté, violence, assassinat, adultère et meurtre sur meurtre. Ça veut dire une multitude de meurtres. Dans Jean 1, on parle de Jésus, on lit le texte « grâce sur grâce ». Une multitude, une avalanche de grâce. Et à l'époque d'Osée, c'était meurtre sans cesse. Deuxième chose, la connaissance de Dieu n'existe plus. Les gens se disaient « peuple de Dieu », mais ils ne connaissaient pas le Seigneur. Et ils ne voulaient pas connaître le Seigneur. Ils agissaient, ils vivaient comme si Dieu n'existait pas. Et la troisième chose, aucune reconnaissance. Je ne savais pas que Nasser allait parler de la reconnaissance ce matin. Mais là, à l'époque, ils avaient tellement reçu, mais ils avaient rejeté celui qui leur avait fait tant de bien, le Seigneur. On va lire un deuxième texte. Tournez la page, Osée 6, versets 1, 2 et 3. Osée 6, versets 1, 2 et 3. Donc c'est encore le prophète qui parle de la part de l'Éternel. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Trois versets, et dans ces versets, il y a à la fois une invitation et une déclaration. Dieu invite son peuple à revenir à lui. Une invitation que Dieu adresse à son peuple 800 ans avant Jésus-Christ. Et puis, il y a une déclaration. Après avoir fait cette invitation au peuple de revenir dans la bergerie, de se remettre en règle avec Dieu, de se remettre sur le droit chemin, Dieu déclare deux choses. Il vous sera possible de me connaître. Deuxièmement, il vous sera possible d'être renouvelé, visité, restauré, guéri par le Seigneur. En trois jours, ça veut dire, ça peut aller très vite. Si on se remet sur le droit chemin, si on revient dans la bergerie, Dieu peut agir très vite dans le cœur de quelqu'un. Cette invitation et cette déclaration étaient adressées à ce peuple-là, à cette époque-là, mais on peut dire sans aucune hésitation que cette invitation et cette déclaration nous sont adressées ici à Lyon le 8 février 2026. Cette invitation, cette déclaration sont adressées aux chrétiens qui ont un peu perdu leur premier amour, qui ont eu un coup de froid spirituel, ou qui sont carrément froids ou tièdes, et qui manquent de sincérité et de sérieux dans leur relation avec Dieu. Ces chrétiens-là peuvent venir au culte tous les dimanches. Leur corps est là, mais leur cœur est loin. Comme dit Isaïe dans Isaïe 29, 13, ce peuple m'honore de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est facile de vivre comme ça. Cette invitation et cette déclaration s'adressent également à tout chrétien qui est sérieux avec le Seigneur. À tout chrétien qui veut aimer le Seigneur, qui veut marcher avec le Seigneur, qui veut servir le Seigneur, qui veut obéir au Seigneur. Dieu invite ces gens-là à connaître Dieu de façon plus intime, plus personnelle, plus profonde. Il y a un chant dans J'aime l'Éternel qui dit « La plus belle chose de toute ma vie, c'est d'aimer le Seigneur. » De connaître le Seigneur, de servir. Oui, l'ordre, c'est connaître Dieu, aimer Dieu, servir Dieu. Voilà les plus belles choses dans toute ma vie, selon ce chant. Et puis certains connaissent le chant d'Exo. Je connais le Créateur du monde. Je connais le Rédempteur du monde. Mais je connais aussi l'Esprit du monde. Et grâce à notre connaissance de Dieu, on peut vaincre l'esprit du monde qui vient, bien sûr, du malin. Donc, est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce qu'on le connaît bien? Comment mieux connaître Dieu? Comment connaître Dieu de façon intime, personnelle et profonde? Moi, je connais Sir Alex Ferguson. Je pourrais parler de lui, ex-entraîneur de Manchester United, de l'Écosse et d'autres équipes. Je pourrais parler de lui pendant une heure, voire trois heures. J'ai lu trois de ses quatre autobiographies. Je les ai dévorées, je les ai mémorisées. Bon, je n'avais pas tout à fait par cœur. Mais je sais où il est né, à 20 km de là où je suis né. Je sais où il habite aujourd'hui. Je sais où il était hier et avant-hier. Je ne plaisante pas. Je sais plein de choses à son sujet. Pourtant, je ne l'ai jamais rencontré. S'il me croisait en ville, il ne s'arrêterait pas pour dire « Salut David ». Tandis que moi, je viendrais lui dire « Je peux te prendre une photo ?» Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne lui ai jamais serré la main. On n'a jamais bu un café ensemble. Pourtant, je sais plein de choses à son sujet. Je lui ai même écrit. Il y a quelques années, il y a eu un gros souci de santé. Et j'ai écrit pour dire que j'ai prié pour lui. Et combien j'ai apprécié ses livres. Bon, il ne m'a jamais répondu. Mais ça, c'est normal. Je pleure tous les soirs depuis, mais bon, c'est pas grave. Je sais plein de choses à son sujet. Mais je ne peux pas dire que je le connais personnellement. Donc, ce que j'ai mis en haut est faux. Ce que j'ai mis en bas est plutôt vrai. Entre guillemets, je connais. Je sais plein de choses, mais je ne le connais pas. Comment connaître quelqu'un? Eh bien, si vous aviez envie de connaître David Sutherland, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire pour me connaître? Eh bien, je vais vous donner quelques pistes. Et quand? Invité, d'accord, ok, ce midi, je suis libre, je viens. Il faut parler avec moi. Il faut passer du temps avec moi. Il faut m'écouter. Et vous serez ébahis par toute la sagesse qui sortira de ma bouche. Il faut faire des choses avec moi. Se promener dans les bois. Faire des jeux de société. M'aider à terminer un puzzle que j'ai commencé il y a 9 mois et qui m'énerve parce que je n'arrive pas à le finir. Passez du temps avec moi, vous allez voir mes réactions. Vous allez comprendre mes attitudes, mes émotions. Vous pourriez lister toutes mes qualités. Il vous faudrait entre 10 et 12 secondes. Ou vous pourriez lister tous mes défauts. Et là, il faudrait entre 2 et 3 heures. Et vous constaterez que je ne suis pas toujours quelqu'un qui reflète l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Si vous passez du temps avec moi, vous allez comprendre qu'il faudrait beaucoup prier pour Brigitte, pour qu'elle ait toujours la patience avec un mec comme moi. Pour mieux connaître Dieu, c'est simple comme un MP3. Vous savez ce que c'est, un MP3. MP3, M, méditer sa parole. On peut lire la Bible, étudier la Bible, mémoriser la Bible, méditer la Bible. Méditer des textes bibliques, ça veut dire que c'est le contraire de dire « J'ai lu mon chapitre, je ferme la Bible, j'ai fait mon devoir, les anciens seront contents. » Prendre le temps pour méditer la parole de Dieu. Méditer la Bible, c'est la mise en pratique de ce mot « Selah » qu'on trouve parfois écrit en hébreu dans nos Bibles en français. Selah, c'est un mot hébreu qui signifie arrêter, écouter, réfléchir. Il y a quelques années, j'ai présidé le culte ici et je vous ai expliqué le mot Selah. On a lu le psaume 46 où c'est marqué 3 fois Selah, où ça veut dire pause. Et je vous ai dit, je vais lire le psaume 46. Quand on arrive à pause, je veux que tout le monde dise arrêtez, écoutez. Réfléchir. Et chose formidable, tout le monde au culte ce jour-là ont crié, arrêtez, écoutez, réfléchir. Quand on lit la parole de Dieu, on a besoin de s'arrêter, d'écouter et de réfléchir. Ce mot-ci là se trouve 74 fois dans l'Ancien Testament, 71 fois dans les psaumes, 3 fois dans le livre d'Habacouc. Si vous ne me croyez pas, vous les comptez. Comptez-les tout à l'heure et puis appelez-moi si je me trompe. Méditez la parole de Dieu. Une photo de ma cousine. Pour changer de métaphore, vous savez combien d'estomacs une vache elle a? 4. 4 estomacs. Et la Bible nous encourage à méditer, ce qui veut dire ruminer comme une vache. Une vache qui rumine est une vache en bonne santé. Ruminer lui permet de digérer le foin et l'herbe qu'elle mange. Et vous savez, le premier estomac, ce n'est pas un cours de biologie, mais le premier estomac d'une vache s'appelle la panse. Alors moi, je connais bien la panse de brebis farcie. La panse de vache farcie, je ne pense pas que je mangerai. Mais quand la vache avale quelque chose, ça va dans sa panse. Je pense. Non, je sais. Ça va dans sa panse et ça bouge dans la panse et la panse casse ce qu'elle a mangé en petites boules. Et ces petites boules remontent dans sa bouche et elle continue à ruminer. Et elle peut faire ça jusqu'à 60 fois avant que les boules aillent plus loin dans un autre estomac. Et puis plus loin, il faut 3 jours pour que ça sorte dans le champ. Je n'ai pas des photos. Hein. Mais ça veut dire que ça rentre, ça sort, ça rentre, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Et la vache prend du temps pour apprécier ce qu'elle mange. Et méditer la Bible, pour le chrétien, c'est un peu ruminer comme une vache. On n'a pas 4 estomacs. Là, j'ai appris l'autre jour qu'il y a une race de baleines qui en a 9. 9 estomacs. Et quand on pense à la taille d'une baleine, bon, on peut comprendre. Mais est-ce que vous avez l'habitude de méditer, de ruminer la parole de Dieu? Et j'appuie 100% ce que disait Pierre l'autre jour, que le fait de mémoriser, on peut répéter, revenir sur un verset qu'on a mémorisé et méditer et penser, mais ça veut dire quoi pour moi? Donc, MP3, M comme méditer. P comme passer du temps dans la présence de Dieu. Penser à ses attributs. Qui est Dieu? Bah, la Bible parle de sa sainteté, de son amour, de sa justice, de sa bonté, de sa bienveillance, de son éternité, de son omniprésence. On a chanté ça tout à l'heure. Partout, ton amour nous suit. Merci Seigneur. Son omniscience et son omnipotence. Oui, j'ai omniprésence de voix. Je n'ai pas bien ruminé quand j'ai préparé ça. Omniprésence, omnipotence, omniscience. Il sait tout. Vous pouvez méditer un de ses attributs par jour. Et il y en a d'autres que je n'ai pas mentionnés. Ou pensez aux descriptions de Dieu. La Bible le décrit comme le sauveur, père, juge, législateur, berger, vigneron, créateur, protecteur, lumière, Dieu de la paix, 5 fois dans le Nouveau Testament. Potier, rocher, libérateur, roi, seigneur, consolateur, feu dévorant, bouclier. Et oui, tout n'est pas là, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est pas grave. En tout cas, pensez à comment Dieu se décrit. Pensez à comment les apôtres, comment les prophètes décrivent Dieu dans la Bible. Et là, on a de la matière, les amis, pour penser à ça, pour réfléchir, pour méditer, pour ruminer, et pour dire, mais quel Dieu formidable nous avons. Et pourquoi est-ce que ce Dieu-là aime quelqu'un comme moi? Il nous aime parce qu'il nous aime. Il n'y a pas d'autre raison. Et bien sûr, une autre chose qu'on peut faire, c'est de lire de bons livres qui parlent de Dieu. J'ai lu il y a quelques mois, pour la énième fois, Connaître Dieu de Packer. Je n'ai jamais lu un livre autant que celui-là. Il y a les 100 noms de Dieu. On peut lire ça un nom par jour, sur 3 mois et quelques jours. La connaissance de l'Éternel de Tozer, les noms de Dieu de Zeller. Pour une fois réfléchi, il y a tout un chapitre sur qui est Dieu, de Alanisus et d'autres. La souveraineté de Dieu de Arthur W. Pink, un Anglais qui habitait en Écosse, donc ça va, c'est pour ça que je le recommande. Et Connaître Dieu pour mieux prier, Régine Hetz et Yann Newbery. Il y a d'autres livres, mais ce sont des livres qui m'ont aidé, qui m'ont nourri et qui m'ont fait du bien et qui m'ont fait comprendre des choses au sujet de Dieu. Donc, M, méditer, P, passer du temps, et 3, oh là là, pourquoi 3? Parce qu'à force de méditer, à force de passer du temps avec le Seigneur, il va nous aider à mieux comprendre et à mieux connaître le Dieu trinitaire, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. À force de lire, d'étudier, de mémoriser, de méditer, de ruminer, de passer du temps dans la présence de Dieu, Dieu nous aidera à faire meilleure connaissance avec le Père et avec ce qu'il fait, avec le Fils, avec ce qu'il a fait, et avec l'Esprit Saint, avec ce qu'il peut faire, veut faire dans notre vie. À force de méditer, à force de passer du temps avec Dieu, il nous aidera à faire meilleure connaissance avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je conclue. Autrefois, le défaut chez le peuple de Dieu était un manque de connaissance. Vous ne connaissez pas Dieu. Ou Dieu disait, vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui, le défi du peuple de Dieu, c'est d'améliorer notre connaissance de Dieu. Ça ne nous tombe pas du ciel, entre guillemets, mais ça nous en approche du ciel, le fait de mieux connaître le Seigneur. Grandir dans la connaissance de Dieu. Au début de ce message, j'ai commencé avec une invitation et une déclaration. Je termine ce message avec une déclaration suivie d'une invitation, pour ne pas dire un ordre. Et ce texte, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 17 et 18. Bien-aimés, vous voilà avertis. Tenez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est important, la grâce et la connaissance soient ensemble. Parce qu'on peut connaître plein de choses, on met plein la vue, sans vanter. Mais il faut que ce soit une connaissance personnelle, et non pas intellectuelle. Et à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Que Dieu nous aide à grandir dans sa connaissance. Prions. Père Céleste, nous te remercions car nous pouvons t'appeler Père. Et nous savons que nous sommes tes enfants. Mais pardonne-nous notre manque de connaissances, notre manque d'envie de passer du temps dans ta présence. Nous te prions de nous aider à vouloir méditer ta parole, à vouloir passer du temps dans ta présence. Et nous te prions de nous aider à grandir dans la grâce et dans la connaissance, et être des témoins, et être des chrétiens stables, fidèles, et persévérant dans notre marche avec toi. Merci Seigneur pour ta parole et merci pour la possibilité de te connaître. Amen.